Radio Bulle. Radio Bulle, rythme la jeunesse.
Bonjour, bienvenue à tous sur le 93.6. Ici, c'est Radio Bulle rythme la journée, bien évidemment, mais pas que. On a aussi cette chance d'émettre sur le Tarn-et-Garonne et dans le Gers. Alors, on fait un petit clin d'œil à tous nos amis auditeurs. Il y a aussi beaucoup de touristes de passage en ce moment en Lot-et-Garonne. Ça y est, c'est officiellement les vacances d'été et les magazines de l'été s'ouvrent et se poursuivent. Le premier, c'était déjà la semaine dernière. On était au Café Vélo avec Sam, avec Angèle aussi qui était parmi nous. Et ça y est, les bulles de Déloc reviennent avec Jérémy Gasnier de retour. Bonjour Jérémy.
Bonjour Samia, bonjour à tous. Et oui, j'ai pris mes vacances, ouais. Donc voilà, me revoilà.
C'est trop bizarre quand t'es pas là
c'est
sur
vrai.
Les bulles de Déloc, j'ai dû m'adapter.
Ben oui, je suis parti un petit peu en Alsace et ouais. En Allemagne pour prendre le frais. Hein. Ouais. Voilà, on avait un petit 38 degrés, donc ça faisait du bien.
C'était bien, ouais, parce que quand t'es parti, c'était le feu, et en plus, oui. Ça reprend. Bon, alors ça y est, magazine de l'été, aujourd'hui, notre émission prend ses quartiers dans un lieu d'exception. C'est le château de la Gravade, à Leyrac, un domaine chargé de charme qui accueille aujourd'hui des événements privés et professionnels, mais qui est aussi le berceau d'une marque de senteurs d'intérieur, Alienoria. On a eu l'occasion, il y a quelques semaines, Jérémy, de découvrir cette marque. Bougies parfumées, diffuseurs, parfums d'ambiance. Derrière cette marque et toute cette histoire aussi se trouve Cécile Henquin-Pavageau. Bonjour Cécile.
Bonjour Samia, bonjour Julien.
Merci.
Ouais, moi c'est Jérémy, c'est pas
désolé.
Grave.
Ce sont les aléas du direct. Après Julien, ça lui irait pas trop mal, mais t'es pire
t'as
que moi.
T'as pas une tête à t'appeler Julien quand même.
On m'appelle beaucoup Benjamin, mais bon tu vois, c'est pas grave.
Et j'ai trouvé une copine de prénom, parce que moi aussi je rebaptise les gens.
Voilà.
Je suis un petit peu comme toi. Bon, en tout cas, toi, c'est Cécile Henquin-Pavageau et tu nous accueilles ici chez toi au château de la Gravade à Leyrac. C'est un endroit qu'on va apprendre à découvrir à l'antenne tous ensemble. Mais on va aussi faire un focus sur la marque que tu développes. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Julien Jérémy il y a quelques temps. Sur Radio Bulle, on avait fait la découverte et on a dit franchement, il va falloir aller un petit peu plus loin parce que on aime valoriser les initiatives entrepreneuriales. Et puis surtout que là, il y a vraiment une histoire, quelque chose d'assez patrimonial qui rappelle aussi un certain art de vivre, qui entraîne des émotions. Et c'est tout ce qu'on aime chez Radio Bulle. En plus, tu nous reçois dans un cadre magnifique.
Merci.
Avant de parler d'Alienoria, Cécile Henquin-Pavageau, j'aimerais qu'on parle du lieu qui nous accueille. Quel est, en quelques mots, je ne vais pas te demander de me faire une visite guidée, mais quelle est l'histoire du château de la Gravade et qu'est-ce qui t'a séduite, toi, ton mari, ta famille, pour venir ici vous installer, devenir propriétaire de ce lieu ?
Alors, l'histoire du château de la Gravade, elle est relativement récente, puisque la bâtisse date de 1873. L'originalité dans le Lot-et-Garonne, c'est qu'on est sur une maison qui est dans un pur style Napoléon III. Il n'y en a pas tant que ça en Lot-et-Garonne, et ça se reconnaît notamment à sa toiture qui est en ardoise, alors qu'ici, on est quand même au pays de la tuile. Alors, sachant que l'ardoise, ça peut vite être la tuile, parce que pour trouver un maître ardoisier dans le secteur,
c'est pas évident.
Ouais. Et c'est une maison qui a été bâtie en l'occurrence par une famille leyraquaise qui était là depuis très très longtemps. On le voit à la métairie qui est juste devant le château, qui elle date du XVIe. Et nous avons eu un coup de cœur, enfin surtout moi, parce que j'adore la vieille pierre, en 2020. En plein Covid et sur un coup de, comment dire, peut-être d'inconscience.
Ah ouais?
Ah ouais. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur.
Moi je pense toujours aux toiles d'araignée quand c'est comme ça parce que
l'avantage c'est
elle
que
est un peu grande mais ouais enfin la hauteur sous plafond c'est pas mal quand même.
Il faut prévoir la perche, il y a 5 mètres effectivement là où vous êtes sous les plafonds donc effectivement faut prévoir c'est casse-pied quand il faut changer une ampoule aussi. L'échelle standard ça suffit pas, faut sortir l'échafaudage. Alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bâtisse parce que même si elle a été baptisée château, soyons honnêtes, c'est une grosse maison bourgeoise comme on peut trouver à Bordeaux. D'ailleurs c'est un architecte bordelais qui l'a construite. Et c'est pour moi une vraie grande maison de famille au sens où on l'entend, c'est-à-dire que nous on y vit, ma maman y vit. Il nous reste effectivement 2 appartements au dernier étage qui sont loués sur du courte durée pour des déplacements professionnels ou touristiques. Mais pour nous, c'est une vraie maison de famille, c'est-à-dire qu'on a nos enfants qui galopent, le chien qui vous a accueilli, je suis déçue, il vous a pas mordu, il faudra que je le dresse un peu mieux la prochaine fois.
Mais nous, personne nous mord. On est trop mignons sur Radio Bulle.
Pas les animaux en tout cas.
Merci Julien Jérémy.
Donc voilà, et nous avons racheté en 2020, nous avons refait une grande partie, toute la décoration quasiment, le système de chauffage, une partie de la plomberie, une partie de l'électricité. Enfin, ça a été un chantier assez épique, tout ça en plein Covid évidemment, c'était histoire de simplifier les choses, parce que nous on a le sens du timing.
Et c'est dans ce sens-là que tu dis, j'avais cette dose d'inconscience de me dire, voilà, bon, t'as peut-être, tu l'as acheté en plein Covid, c'était déjà déclaré ou c'est...
On a signé entre les deux confinements.
Ok, d'accord.
Ouais, donc on était vraiment en plein dedans.
Ouais.
Avec un timing serré, parce que quand tu as un chantier à gérer, en fait, quand tu achètes ce type de maison, il y a la théorie et la pratique. Ouais. C'est-à-dire, il y a la théorie de ce que tu as prévu sur tes chantiers, de comment ça va se passer, etc. Et puis, il y a toutes, passez-moi l'expression, les merdes que tu vas découvrir au fur et à mesure. Ouais. Sachant qu'ici, forcément, étant donné la hauteur sous plafond, c'est pas une maison neuve, donc t'as pas les plans d'exécution. Hein, donc, va savoir où elle passe ta gaine électrique, hein, bon courage. Si tu veux, tout est compliqué. Voilà. Ouais. Tout est démultiplié, tout est. Voilà, mais comme je dis, ce sont des maisons qui ont une âme.
Ouais.
Moi, j'aime les choses qui ont de l'âme. C'est aussi pour ça que je fais des parfums d'intérieur avec une histoire particulière. Et donc, oui, effectivement, c'est. Pour ceux qui ne sont pas passionnés, c'est un bon gros paquet d'emmerdes. Voilà, faut être honnête. Maintenant, ce sont, comme je dis, des maisons d'une vie.
Exactement. C'est un projet d'une vie. En plus, vous avez une grande famille, 4 enfants, c'est ça ?
Absolument.
Donc, ça s'y prête tout à fait.
Ah oui, totalement. Elles manquent pas de place, ça va, elles sont contentes.
Elles sont plutôt dans de bonnes dispositions. Alors, le château est aussi un lieu de réception, on peut le privatiser. Comment ça se passe exactement ?
Alors, actuellement, il l'est un petit peu moins parce que notre histoire familiale a fait que sur les 2 dernières années, nous avons eu 2 bébés. Donc, pour le moment,
bravo.
On a un petit peu mis en stand-by cette partie événementielle. Mais effectivement, début 2027, on va reprendre la possibilité de louer soit la totalité, soit... partiellement les salons où vous êtes actuellement pour des séminaires, des after-work, des formations, des journées d'études, ce genre de choses. Voilà.
Donc ça, voilà, ça revient pour 2027, c'est officiel. On va s'arrêter maintenant, et c'est le cœur hein, de cette délocalisation, même si on a vraiment beaucoup de chance. J'étais déjà venue quand, effectivement, il y avait eu une conférence de presse, une fois, par ici. Mmh. Voilà, c'est un lieu que les gens connaissent bien. Mais on va s'arrêter cette fois-ci sur ton nouveau projet, Aliénoria, des fragrances qui semblent raconter une histoire. Je vois chronique parfumée inspirée d'Aliénor d'Aquitaine. Moi, ça me parle. On va revenir sur cette histoire et comment tu as décidé, toi qui travaillais jusqu'à présent pour les autres, de développer un produit à ton image que j'imagine tu affectionnes beaucoup. Et il y a vraiment une petite histoire dans la grande histoire.
Oui, là encore, je ne sais pas si ce sera le projet d'une vie, mais en tout cas, c'est moi je fonctionne beaucoup à la passion. C'est-à-dire que j'ai des passions qui passent dans ma vie. Il y a l'histoire, il y a le patrimoine, il y a la maison, il y a le cheval qui est une grande passion chez moi, je suis cavalière. Et puis là, en ce moment, c'est les parfums. Voilà, je suis en mode passion parfum.
Ouais. Et donc, ça s'est réveillé comme ça ou...
Non, ça ne s'est pas réveillé comme ça. Je suis quelqu'un qui a un attrait naturel pour le beau, pour l'esthétisme. J'adore le vin. Moi, j'ai découvert les parfums, les arômes par le vin à l'origine. Dans mon métier, la communication, le marketing, on fait passer des messages. Alors, on fait passer des messages par le verbe et on fait passer des messages par le visuel. Donc, si tu veux, moi, j'ai toujours eu cette sensibilité-là, je dirais pas artistique, mais du moins créative. Voilà. Parce que je ne suis pas une grande artiste, quand même, dans l'âme. Aliénoria, ça répond à ça, dans le sens où, à un moment, eh bien, j'ai eu envie de développer un produit qui me plaisent, que j'aime, dans la mesure du possible, qui plaisent aux gens, c'est un peu le but de l'opération, il faut que ça se vende, sinon ça va
bien
vite. Voilà. Et donc ça répond à une partie de ma vie, un certain nombre de passions, les parfums, l'Orient,
c'est pas les... On va parler de l'Orient, mais et en plus, là, la petite mise en scène que tu nous as préparée sur la table, et les amis, on vous mettra les images hein, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, il y a cette touche orientale, mais pas que... Tu as eu 2 bébés récemment. Oui. On sait que les femmes enceintes, les odeurs, ça les travaille plus qu'à l'habitude. Oui. Est-ce que il y a une incidence sur le fait d'avoir été enceinte récemment et la sortie et le développement d'Aliénoria ?
Alors sur la façon dont je respire et dont je sens les choses, ça c'est évident, parce qu'une femme enceinte, les hormones aidant, ça se détraque de ce côté-là. Alors moi, il y a eu un déclencheur avant. Il y a 3-4 ans maintenant, peut-être même un peu plus tôt, c'est quand je me suis penchée sur l'œnologie et qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de fumer. Parce que la clope, c'est l'ennemi du goût et de l'odorat.
Ouais.
Et donc, pour réussir à sentir les choses qu'on me disait qu'il fallait que je sente ou que j'arrive à détecter dans un arôme, j'ai arrêté de fumer à ce moment-là. Et le fait d'arrêter de fumer... je vous assure que, enfin, je ne sais pas s'il y a des fumeurs qui nous écoutent, mais le jour où vous arrêtez, vos papilles et votre nez sortent de leur grève prolongée et se remettent en fonction.
D'accord, c'est vraiment ok. Ça. Donc tu redécouvres quelque
totalement,
part.
Ouais. Totalement.
À la l'odorat fois, aussi.
Absolument. Okay. Absolument. Alors le goût et l'odorat, c'est très très lié. Hein. C'est-à-dire que quand on apprend à faire de l'olfaction de parfum, on t'apprend à inspirer et à expirer parce qu'on a aussi des récepteurs de l'odorat qui sont derrière la bouche. Donc c'est quand même très très lié. Donc il y a eu ce déclencheur là, il y a eu effectivement les deux maternités où j'avais un petit peu plus de temps.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui a peur de s'ennuyer et j'ai eu envie de développer quelque chose, de créer quelque chose et donc bah là j'ai marié ce que j'aime. Voilà.
Avec ce point de départ de cette figure historique, oui. Féminine, oui. Que tu nous as très bien raconté la dernière fois, mais je suis pas contre pour les auditeurs et même pour moi que tu reviennes sur la figure d'Aliénor d'Aquitaine.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a pas mal de figures féminines dans l'histoire de France et l'histoire d'Europe qui sont des figures à poigne et qui ont eu un vrai impact en termes de pouvoir, de politique, etc. Aliénor est un personnage assez exceptionnel dans ce cadre parce qu'elle arrive à une époque où on n'est pas vraiment dans une époque girl-friendly, hein, pas du tout. Elle est duchesse d'Aquitaine, c'est le meilleur parti d'Europe. Ce qu'on attend d'elle, c'est d'amener sa dot et d'enfanter. Voilà, ouais. C'est à peu près tout ce qu'on attend d'elle.
C'est une perspective très joyeuse.
Absolument. Sachant qu'à l'époque...
La belle époque, Jérémy.
Ouais, bah, j'aurais pas aimé être à cette époque-là, tu vois.
Pareil. Voilà. C'est bien, je suis contente. Ah, tu oui. vois, je t'ai branchée.
Okay. J'ose espérer que ce genre d'époque ne reviendra pas. Elle hérite donc du duché d'Aquitaine. Et il faut comprendre qu'à l'époque, on est quand même au XIVe siècle, non, même avant, au XIIe siècle, et les cours européennes sont assez austères, à l'exception de la cour d'Aquitaine.
D'accord.
La cour d'Aquitaine. C'est flamboyant, c'est coloré, c'est très érudit, on aime les arts, etc. Il y a déjà du vin. Hein, sans Aliénor, le vin de Bordeaux n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, Aliénor d'Aquitaine, qui forcément est extrêmement courtisée, parce que pour l'époque, elle est très belle, mais surtout, elle est très riche, elle va devenir deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre. Et ça va être un personnage majeur dans l'histoire aussi qui va suivre des royautés européennes parce que comme elle a été deux fois reine, qu'elle a eu beaucoup d'enfants, le plus célèbre étant Richard Cœur de Lion.
Et d'ailleurs, Radio Bulle est rue Richard Cœur de Lion à Agen.
Voilà, donc, venez nous voir voilà. Quand vous le voulez.
Voilà, comme quoi vous avez un lien direct avec Aliénor d'Aquitaine, mais c'est un peu... Avant la reine de Victoria, c'est la mère des monarchies européennes.
De toute façon, en Lot-et-Garonne, tous les fils se touchent. Hein. Moi, je dis ça comme ça... Voilà, on est tous des cousins.
Donc voilà, et ce personnage d'Aliénor, il est absolument remarquable parce que c'est un parcours de femme absolument exceptionnel dans une époque qui est quand même obscurantiste au possible. Et c'est un personnage féminin, mais comme moi je les aime, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de mal avec la vision féministe qui est de dire que la femme fait les choses différemment parce qu'elle est bienveillante, etc., et qu'elle est cucu la praline. Là, dans le cas d'Aliénor, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Hein, c'est-à-dire qu'elle aura prouvé qu'une femme peut faire aussi bien, voire pire qu'un mec. Mais que quand c'est nécessaire, elle est parfaitement en capacité d'assumer le pouvoir dans tous les sens du terme. Elle accompagnera le roi de France pendant les croisades. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez à l'époque.
Ah non, mais moi, je ne veux même pas imaginer. Déjà, prendre le bateau en 2026, ça me gave. Alors, faire une croisade, non mais ça va pas ou quoi ?
Voilà,
non, c'est une vraie femme, quoi.
Non, c'est une vraie femme. Et pour la petite histoire, à plus de 80 ans, elle chevauche encore à travers l'Europe pour aller marier sa petite fille, en l'occurrence.
Increvable, quoi.
Increvable, absolument. Et elle mourra dans les 84 ans, je crois. Alors, longévité exceptionnelle, on est au 12e siècle.
Oui.
Hein, je ne sais pas si vous imaginez, espérance de vie dépasse à peine 35 ans à l'époque.
C'est ça, voilà.
Donc voilà, donc elle est bien résistante quand même, la dame. Et donc, elle décédera. Et vous pouvez aller voir son gisant à l'abbaye de Fontevraud, qui est où c'est absolument magnifique. Et donc, il y a ce gisant absolument somptueux. Et donc voilà, donc moi, c'est un personnage de femme. Il y en a eu d'autres, hein, dans l'histoire. Mais c'est vrai que ce personnage d'Aliénor d'Aquitaine, quand on est en Aquitaine, à Agen, etc., je trouve que c'est un personnage qui est intéressant et qui est vraiment sympa pour faire du storytelling autour d'un produit.
Et effectivement, l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine ramène, donc tu parlais des croisades à l'Orient.
Mmh, absolument.
L'Orient avec laquelle tu as aussi une histoire.
Oui.
Et donc, c'est, quelque part, le fil était quand même facile à dérouler en ce qui te concerne. Bah, tu as trouvé des corrélations.
Ça réunissait pas mal de choses, effectivement. Aliénor accompagne le roi de France pendant les croisades. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler une mondialisation. Et c'est le début, effectivement, d'un apport culturel, de senteurs, de matières, etc., qui sentent totalement différemment. Il faut imaginer, encore une fois, qu'on est au XIIe siècle. Hein. Il n'y a pas le tout à l'égout, il n'y a pas le confort moderne. Enfin, je veux dire, ça ne respire pas la rose dans toutes les maisons, comme on dit. Ouais. Et donc il y a effectivement ce lien à l'Orient qui moi me parle parce que quand j'ai rencontré mon mari, il était expatrié au Qatar, que j'ai vécu 5 ans à Doha et que j'ai beaucoup déambulé dans les souks qataris. Et alors il n'y a pas qu'à Doha, mais quand vous vous baladez dans tous les souks du Moyen-Orient, ce qui vous prend au nez, c'est les odeurs, c'est les épices, c'est les parfums de fleurs, etc. Enfin, moi, ce sont des choses qui me parlent, je trouve ça absolument magnifique. Et donc, j'ai essayé de retrouver dans les parfums effectivement, qu'on développe dans la gamme Aliénoria, ces odeurs-là. Alors, ces odeurs que toi, tu aimes beaucoup. Je sais que tu m'as parlé des odeurs de rose de Damas qui te,
ah ouais,
qui
moi
te parlent particulièrement. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup les odeurs de oud. Le oud, en fait, c'est des bois qui sont
très nobles.
Très nobles, absolument. Ça coûte une fortune. Ouais. Et qu'on retraite avec des essences, etc. Et qu'on fait chauffer dans des brûles parfums. Mmh. Et alors, c'est pareil, vu de France, il y a le oud, vous avez là-bas des senteurs d'oud, il y en a des milliers. Enfin, il y a des variations extrêmement importantes. Et tout ça, il y a une richesse, c'est vrai, sur ces pays-là. Qui est absolument génial. Puis les épices, hein. Quand on met du safran dans une bougie, c'est magnifique. À la chauffe, c'est splendide.
On va y revenir, s'y pencher, prendre le temps. Déjà, je trouve que, point de vue esthétisme, c'est un voyage déjà, hein, Jérémy.
Ben, là, tous les parfums sont disposés en bout de table avec, on voit, il y a un genre de, on dirait des carrés de chocolat blanc, mais en fait non.
Alors ce sont des fondants parfumés.
Voilà.
On casse effectivement les morceaux de la tablette et on les fait fondre dans un brûle parfum. Donc voilà,
ça dégage un parfum.
Absolument. Voilà. C'est un peu la bougie parfumée, mais version je la fais fondre et ça dure à peu près la même durée qu'une bougie, quoi.
On vous partage ça en images, bien entendu, sur notre Instagram, notre Facebook. Et on en parle vraiment. On va prendre le temps dans un instant sur Radio Bulle avec Cécile Henquin-Pavageau, Aliénoria, depuis le château de la Gravade à Leirac. À tout de suite.
À tout de suite.